contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, les nouveaux philosophes.
Merci d'être là pour cette nouvelle séance consacrée à définir le nihilisme. Et on pourra aborder la question des philosophes qui auront résisté à ce courant-là. Je voudrais aborder la question de la télévision, de la philosophie à la télévision. Peut-on philosopher à la télévision ? Je crois que la télévision a changé la façon de philosopher. On a philosophé avant, pendant l'arrivée de la télévision, dans les années 50-60, et puis dans une télévision, ou à la télévision aujourd'hui, alors qu'elle est devenue majeure et prépondérante, et qu'en moyenne, les gens passent 3 ou 4 heures par jour devant leur écran. Donc on ne peut pas faire comme si cette question ne se posait pas. Il y a eu des lieux différents et multiples, et pendant très longtemps, l'Antiquité en l'occurrence, je dirais des présocratiques jusqu'à l'arrivée du christianisme, le lieu de la philosophie, c'était la place publique. C'était l'agora chez les Grecs, le forum chez les Romains, on avait une façon de créer les villes. Il y avait un centre qui était névralgique, cosmique, intellectuel, culturel, et c'est dans ce lieu qu'on philosophait, c'est-à-dire qu'on y rencontrait, et vous pouvez toujours faire un tour, par exemple à Athènes, à l'Agora, c'est assez magique de voir le lieu où Socrate et Platon se sont rencontrés, ou à Sinope, le lieu où Diogène a commencé ses frasques, en Turquie aujourd'hui, ou dans d'autres endroits, Héraclite d'Éphèse, etc., enfin dans tous ces lieux où effectivement on pensait pour produire des conversions existentielles. Sur l'Agora, sur le forum, le philosophe parle pour convertir des gens. Le christianisme s'installe, s'impose, c'est une secte qui réussit, donc c'est Constantin qui effectue le passage de la secte à la religion. Et à ce moment-là, le lieu de la philosophie, ce n'est plus l'agora, c'est le scriptorium, c'est le lieu où l'on écrit, où l'on reproduit les textes. On a un texte, on le recopie, on recopie le texte, c'est ainsi qu'on fabrique les pensées, c'est-à-dire glose de glose, commentaire de commentaire. Dans le scriptorium, il s'agit cette fois-ci non plus de pratiquer, de produire des conversions existentielles, mais de contribuer à ce que d'aucuns ont appelé la forgerie. Vous connaissez les hypothèses qu'on appelle mythistes d'un Jésus qui n'a pas existé autrement que comme concept, et il faudra donner de la chair à ce concept. Il faut que le verbe se fasse chair. Et le scriptorium est le lieu de cette transfiguration du logos, le verbe, en chair, on fabrique une histoire. Jésus, Marie, Joseph, etc., vous connaissez l'histoire. Et le scriptorium, c'est donc le lieu dans lequel on va produire l'idéologie officielle de l'Église. Cette façon de faire de la philosophie, non pas comme une invitation à la conversion existentielle, mais comme une invitation à pinailler ou à couper les cheveux en quatre, eh bien, elle débouche évidemment en plein dans l'université, la scolastique. Le Moyen-Âge excelle dans cette façon de faire, c'est-à-dire on est dans la rhétorique, on est dans la sophistique, on s'explique, on raconte, on débat, et c'est une façon de faire de la philosophie. Mais en même temps, il y a une autre façon de pratiquer qui conserve le lignage socratique, c'est-à-dire le premier temps et le deuxième temps, l'agora plus le scriptorium, si vous voulez, bien ces deux temps continuent. Le lieu du scriptorium, ça reste l'université, et le lieu de l'agora, eh bien ce sont les lieux où sont les philosophes. Par exemple, dans la philosophie officielle, on a un lignage qui va de saint Thomas à Michel Serres, par exemple, en passant par Kant, Hegel, Heidegger, Foucault, Barthes, Deleuze, des grands professeurs. C'est la philosophie des professeurs, même si on nous présente ça comme une philosophie subversive, contre-institutionnelle. Tous ces gens-là ont enseigné dans les grands endroits, la Sorbonne, le Collège de France, l'École pratique des hautes études, les campus américains, etc. Et puis on a en face cette liberté socratique, chez des gens comme Montaigne, par exemple. Montaigne, qui philosophe dans sa tour, en province, en Gascogne. Il y a Descartes, qui philosophe dans son poêle. Alors on dit dans son poêle, je me souviens d'avoir fait un jour un article dans Libération, en disant qu'il philosophait dans son poêle, et ils avaient corrigé en disant à côté de son poêle. On appelait poêle à l'époque la pièce dans laquelle se trouvait le poêle, où on est au chaud et où on peut méditer, comme Descartes le faisait, voire dans son lit, puisqu'il disait qu'il se levait tard le matin et que le traîner au lit le matin, c'était une bonne occasion pour penser ou réfléchir. Spinoza, c'est un polisseur de verres de lunettes, c'est pas un professeur. Rousseau, pas professeur non plus, bien sûr. Nietzsche, jamais été professeur de philosophie, professeur de philologie, mais pas de philosophie. Thoreau, pour ceux qui se souviennent, on en a parlé, qui n'est pas non plus un philosophe de profession institutionnelle, mais qui philosophe dans sa cabane, dans la campagne, auprès de son fameux lac Valden, ou Jean-Paul Sartre, qui a été un temps professeur dans un lycée, mais jamais professeur à l'université, et qui philosophait, lui, au bistrot, au café, sur des tonneaux, partout où c'était possible. Donc il y a des lieux pour la philosophie, et l'Agora, le Forum, ou l'université, par exemple, et le Scriptorium, ce sont effectivement des endroits où on a pu philosopher, bon an, mal an, mais on a philosophé. Arrive la télévision. Il y a tout à la télévision. Et je pensais que quelques-uns avaient résisté. Personne n'a résisté. Ils y sont tous allés. Sauf Gilles Deleuze, qui avait des problèmes respiratoires et qui ne pouvait pas y aller avec ses bouteilles d'oxygène. Donc évidemment, on fait de nécessité vertu, souvenez-vous, le renard et les raisins. Et j'ai souvenir à apostrophe d'avoir vu Jean Kelevitch, Jean Guiton, Lévi-Strauss, Michel Serres, René Girard, Pierre Boutang, qui a été plus tard mon professeur à la Sorbonne, François Châtelet, Michel Foucault, BHL, Glucksmann, Renaud, Ferry ou François Georges ou quelques autres, Blandine Barré, Glucksmann, etc. Des individus qui philosophaient à la télévision. Alors évidemment, ça n'est pas l'université, c'est-à-dire le lieu où on parle du haut de sa chaire et où on inflige son cours en disant « c'est ainsi, à la semaine prochaine, point à la ligne, c'est un autre endroit ». On n'y philosophe pas pareillement, bien sûr, mais on y philosophe tout de même. Il se fait que Deleuze a produit des effets avec un tout petit livre qui s'appelait « Qu'est-ce que la philosophie ?», dans lequel il a donné une définition de la discipline, qui est une définition à laquelle souscrivent presque tous les faux subversifs d'aujourd'hui et les vrais officiels, parce que Deleuze nous dit qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui crée des concepts et qui crée des personnages conceptuels. Parce que Deleuze crée des concepts et des personnages conceptuels, donc il est philosophe, ça veut dire que ceux qui ne créent pas de concepts ou qui ne créent pas de personnages conceptuels ne sont pas des philosophes. Et on est facilement philosophe dans ces cas-là, il suffit donc de truffer sa prose de mots complètement incompréhensibles qu'on aura inventés pour donner l'impression qu'on est un philosophe. Sur ce nouvel objet, à savoir philosopher à la télévision ou la philosophie à la télévision, Deleuze porte un jugement extrêmement sévère. Dans un livre qui s'appelle « Pour parler », qui ramasse un certain nombre d'articles parus les années précédentes, en 1990, Deleuze écrit « C'est terrible ce qui se passe à apostrophe. C'est une émission de grande force technique, l'organisation, les cadrages, mais c'est aussi l'état zéro de la critique littéraire. La littérature devenue spectacle de variété. Pivot n'a jamais caché que ce qu'il aimait vraiment, c'était le football et la gastronomie. La littérature devient un jeu télévisé. » Le même Deleuze, si on veut appliquer la façon deleuzienne de procéder à l'endroit de Bernard Pivot, qui mérite mieux que ça, qui n'a jamais dit d'ailleurs Bernard Pivot qu'il était un philosophe, qu'il était agrégé de philosophie, ou qu'il était compétent dans le domaine, il est au contraire d'une extrême humilité, le même Gilles Deleuze dit dans son abécédaire. L'abécédaire, ce sont 8 heures de télévision à la gloire de Gilles Deleuze, et c'est très bien d'ailleurs, c'est un très beau monument, mais dans cet abécédaire, on peut lire ceci de Gilles Deleuze, un Deleuze un peu inattendu. J'aime Claude François, parce que j'ai cru y voir, à tort ou à raison, là je sais pas, j'ai cru voir que François, Claude François, apportait quelque chose de nouveau. Claude François, moi j'y étais sensible. D'abord il cherchait quelque chose. Il cherchait un type de spectacle un peu nouveau, un spectacle en chanson. Il invente cette espèce de chanson dansée, ce qui implique évidemment le playback, tant pis, mais enfin, ou tant mieux, ça lui permet de faire des recherches sonores aussi. Et jusqu'au bout, hein, il n'était pas content, au moins d'une chose, parce que ces textes, c'était d'une bêtise, et ça compte quand même dans la chanson, les textes étaient faibles, il n'a pas cessé d'essayer d'arranger ces textes et d'arriver à des qualités de textes plus grandes comme Alexandrie, Alexandra, qui est une bonne chanson. Donc vous voyez qu'on peut être philosophe et dire des choses qui ne sont pas forcément très, très philosophiques. L'idée qu'on puisse attaquer Bernard Pivot quand il fait des émissions avec Jean Kelevitch et célébrer Alexandra Alexandrie, je vous laisse seul juge. Il en va là du mépris du professeur pour l'éducation populaire. La télévision rentre chez tout le monde. Elle ne demande rien à personne. Pas besoin d'être diplômé, de faire le déplacement. Et il entre chez le spectateur, un philosophe, des philosophes qui vont parler, débattre, se dire un certain nombre de choses pour le meilleur et pour le pire. Il faut de la vivacité d'esprit. du talent pour la répartie, de la concision. Il faut le sens de la formule ou de l'aphorisme. Pas le temps de faire un long discours. On est interrompu, on est arrêté. Et puis, les gens ont autre chose à faire que d'entendre un long discours débité par un professeur. Il faut une vitesse d'expression, de la clarté, une capacité à saisir les choses un peu comme un animal sur un territoire. Il faut voir ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se prépare, ce qui s'annonce. Et puis, être là, bien vivant, grand vivant. Deleuze n'aime pas le dialogue. Et pour un philosophe, ça me paraît un peu dommageable. Il dit dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'est une citation. « La philosophie a horreur des discussions. Elle a toujours autre chose à faire. Le débat lui est insupportable. » Évidemment, si vous êtes à votre bureau ou à votre tribune et que vous dites que la philosophie, c'est l'art de créer des concepts, c'est l'art de créer des personnages conceptuels et que vous obscurcissez Spinoza, Bergson ou Nietzsche ou Hume en faisant des cours et que cet obscurcissement donne l'impression d'une immense profondeur, ça peut suffire avec un public captif. Et il y a des publics captifs. La logique, je dirais, de l'hallucination collective, elle fonctionne ici comme ailleurs. Ça marche pour les religions, ça marche pour les soucoupes volantes, ça marche pour le freudisme, ça marche pour mille et une choses, la droite, la gauche, Dieu, pas Dieu, etc. Et l'hallucination collective, elle peut aussi fonctionner sur des figures comme celle-ci qui nous expliquent ce qu'est la philosophie et qui nous disent que la philosophie, elle n'aime pas le dialogue. Cette émission dont je vous ai parlé, L'abécédaire de Gilles Deleuze, excellente émission, à mon avis, c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'œuvre de Gilles Deleuze, ceci dit sans ironie, elle montre que la télévision n'est pas un mal absolu pour Gilles Deleuze. Si on le filme pendant 8 heures non-stop, dans un cadrage extrêmement serré, en lui donnant les questions en amont pour qu'il puisse y répondre, en donnant l'impression qu'il improvise, alors il n'est pas contre Gilles Deleuze, la télévision. Donc ça n'est pas contre la télévision qu'il est, c'est contre le débat à la télévision. C'est contre le fait qu'il faudrait débattre, même si le débat, c'est parfois un pugilat, c'est souvent un pugilat, mais c'est ainsi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il faut éviter de faire de nécessité vertu en nous disant qu'on méprise la télévision par grandeur d'âme, par vertu philosophique ou philosophante, quand c'est par incapacité à vouloir dialoguer ou à débattre, parce qu'on estime que notre statut ne nous permet qu'une seule chose, le long monologue de 8 heures. Ce fameux monologue de 8 heures, enregistré par Claire Parnet en 1988, il était prévu qu'il soit diffusé après sa mort. Il a été diffusé sur Arte en morceaux débités en tranches le dimanche soir en 1995 et ça a été diffusé de son vivant. Et c'est tant mieux. Je vous invite d'ailleurs à rentrer dans l'œuvre de Deleuze par l'abécédaire plutôt que par Mille Plateaux ou l'anti-Édipe. C'est dans cette configuration-là qu'il faut voir effectivement que les nouveaux philosophes apparaissent, eux, et le veulent, le débat. Il y a cette fameuse émission d'apostrophe 27 mai 1977, j'étais devant ma télévision. Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche? C'était le titre que Pivot avait choisi pour cette émission. Il avait invité Maurice Clavel, qui avait publié à cette époque-là « Nous l'avons tous tué », ce juif de Socrate, entre guillemets, ce juif de Socrate, c'est une expression de Nietzsche. Bernard-Henri Lévy, qui venait de faire paraître « La barbarie à visage humain », cette année-là, hein, 1977. Même année, André Glucksmann, qui lui venait de faire paraître Les Maîtres Penseurs et qui, deux années plus tôt, 75, avait fait paraître La Cuisinière et Le Mangeur d'Hommes. Glucksmann dit d'abord qu'il n'est pas nouveau philosophe et tout le monde y consent. Tout le monde dit d'accord, pas de problème, et donc l'affaire est entendue. Sauf que il se trouve du côté des nouveaux philosophes, puisque Bernard Pivot a agencé la scène de façon à ce que, à sa gauche, immédiatement, il y ait Clavel, mais du côté gauche, il y ait Bernard-Henri Lévy et Glucksmann, et que du côté droit, il y ait Aubral et Delcourt qui avaient écrit un petit texte, un joli petit livre, enfin un petit livre assez dense, mais qui s'appelle toujours « Contre la nouvelle philosophie ». Il y a là trois livres grassés. C'est aussi un phénomène d'édition, cette histoire. Bernard-Henri Lévy est normalien, agrégé, et à cet âge-là, 28 ans, il dirige déjà trois collections. Quand on dirige des collections, c'est normal, on va chercher autour de soi, autour de ses amis. Il va chercher du côté des normaliens, des agrégés de philosophie, de sa promotion, et il distribue des contrats à tel ou tel, et ça ne fait pas, à proprement parler, une école ou une sensibilité. Ce sont des copains qui publient des textes, la plupart du temps des ressucés de maîtrise ou de travaux universitaires, et qui ne manquent pas de talent d'ailleurs, mais ça ne suffit pas pour faire une école. Cette école, elle va se cristalliser autour du style de Bernard-Henri Lévy. Le personnage, longs cheveux, avec la fameuse chemise blanche ouverte, et puis la cigarette à la main. À l'époque, on fume à la télévision, c'est une tabagie terrible, l'émission des nouveaux philosophes, tout le monde fume. Et il est là dans son style. Le style BHL est là. Je vais essayer de vous dire ce qu'il est en abordant la barbarie à visage humain. Donc en face, il y a Aubral et Delcourt, qu'on ne connaît pas vraiment, et qu'on ne connaîtra pas non plus par la suite. Ils ne feront que ce livre. Il y a eu deux ou trois petites choses avant, de la poésie, un texte sur Butor. Par la suite, rien de bien particulier. C'est dommage parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire à partir des journaux, à partir des prises de position de tous ces gens-là, de tous les nouveaux philosophes. Parce qu'à l'époque, quand paraît contre les nouvelles philosophies, Bernard-Henri Lévy n'a pas encore fait paraître la barbarie à visage humain. C'est drôle, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il réponde à ce livre-là, mais le livre était fait alors que la barbarie à visage humain n'était pas encore en librairie. Mais c'était déjà un phénomène journalistique, avant que de devenir un phénomène éditorial. C'est-à-dire que cette diversité dans la presse, il a fallu la cristalliser dans un ouvrage et lancer le produit qui est devenu ce que nous savons, puisque désormais, dans l'histoire des idées, il y a des nouveaux philosophes et une histoire de la nouvelle philosophie. Bernard-Henri Lévy prend la parole parce que Pivot la lui donne, en disant qu'il n'a pas l'intention que cette émission soit un pugilat, et qu'il souhaiterait que chacun puisse s'exprimer, en disant, voilà, une partie s'exprime, l'autre se tait, puis l'autre répondra, et puis l'autre se taira aussi. Ça va durer un temps, et ça deviendra effectivement un pugilat. À la télévision, on ne maîtrise pas tout, c'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'en disant des choses, on aura produit des effets, mais c'est parfois en ne les disant pas qu'on aura produit un effet, ou c'est parfois en les disant avec un ton particulier qu'on aura produit un effet, pas ce qu'on aura dit, mais la façon qu'on aura eu de le dire, une posture, une façon d'être. La caméra, elle ne ment pas, elle montre un visage, elle montre un corps, elle montre une agressivité, elle montre un sourire, elle montre un visage, elle montre des postures, des tensions, des détentes, elle montre toutes ces choses-là. Il y a une espèce de communication non verbale. Il n'y a pas que ce que l'on dit à la télévision, ça c'est la radio. Il y a aussi ce que l'on montre, et l'on montre souvent des choses à son corps défendant. Et dans cette émission, plein de choses sont montrées. L'espèce de raideur de Bernard-Henri Lévy qui manque d'humour, et l'espèce de drôlerie d'Aubral et Delcourt. Bernard-Henri Lévy expose ses thèses, et parce qu'il y a des thèses. C'est toujours trouvé ridicule qu'on méprise le travail de Bernard-Henri Lévy en disant que ça n'était pas un philosophe. C'est un philosophe avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais c'est un philosophe. Il y a des thèses, hélas, et ces thèses-là, il faut qu'on sache ce qu'elles sont parce qu'elles ont produit leurs effets. Il y a chez cet individu, chez ce jeune homme brillant, intelligent, ça c'est évident, rhéteur, sophiste, rhétore, enfin chez ce personnage-là, une capacité effectivement à séduire avec un discours qui est presque, enfin qui est dommageable. Parce que BHL nous dit le pouvoir, c'est le goulag, ce sont les lumières, c'est la raison, la technique, le socialisme, le communisme, le marxisme, le programme commun, tout ça c'est la même chose. On peut s'entendre, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, tout est susceptible d'explication, mais l'idée que le pouvoir ce serait obligatoirement le goulag, ou l'idée que les lumières ce serait obligatoirement le socialisme, le communisme, donc le goulag, ou l'idée que la technique et la raison ce serait obligatoirement le goulag, ou que le socialisme et le communisme, ce qui n'est pas exactement la même chose, ce serait de toute façon quand même le goulag, tout ça est évidemment éminemment dangereux. Ça manque de subtilité et ça met tout dans un même sac. Et on verra que quand on a beaucoup détruit, il reste pas grand-chose chez Bernard-Henri Lévy. Il nous dit l'histoire est finie, le progrès est dangereux, le pessimisme s'impose et il nous reste la morale. Pourquoi pas ? Et la morale, c'est quoi ? Eh bien, c'est de s'opposer au marxisme. La thèse est simple, le Parti socialiste est marxiste, l'extrême-gauche est marxiste, le marxisme est marxiste, et il faut s'opposer au marxisme. Mais on est quand même de gauche. C'est problématique de détruire toutes les gauches et de dire qu'on est tout de même de gauche sans dire de quelle gauche il s'agit. Même si je vous dirai, il y a une ligne qu'il faut avoir lue, et je vous la dirai à la fin, et on verra de quelle gauche il s'agit en ce qui concerne Bernard-Henri Lévy. Il nous dit qu'il a été maoïste en 1968, il se revendique d'Althusser, plus tard de Derrida, mais tout ça ne mange pas de pain, mais il nous dit qu'il a été effectivement le disciple d'Althusser, qu'il a cru à la Révolution, mais qu'il en est revenu. Il fustige ce qu'il appelle les philosophes du désir, les désirants. Les philosophes du désir, ce sont les philosophes de Vincennes. C'est surtout Deleuze, Guattari, c'est aussi René Scherrer, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. BHL ne recule pas devant l'insulte, et par exemple, concernant Deleuze, il dit « Deleuze, c'est la pensée mortifère et spontanée des pervers en tout genre ». Les philosophes, nous dit-il, c'est assez drôle, n'ont pas à être les conseillers du prince. C'est Bernard-Henri Lévy qui dit ça, en 1977. Donc il assassine la gauche marxiste, la gauche socialiste, la gauche communiste, et il nous fait savoir que, en pleine émission, que ce sont Aubral et Delcourt qui sont à l'origine de l'expression « nouveau philosophe ». Ce qui est évidemment totalement faux. C'est une pure production éditoriale de Françoise Verny, directrice éditoriale à l'époque aux éditions Grasset, de deux ou trois collections, dont figure, collection de Bernard-Henri Lévy, et d'une promotion journalistique orchestrée par eux et quelques-uns dans la presse qui ont suivi. Donc c'est une pure production organisée par Grasset et Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy dit à Aubral et Delcourt que ce sont eux qui ont inventé l'expression « nouveau philosophe ». Évidemment, Aubral et Delcourt sortent de sous leur siège le numéro des Nouvelles littéraires et ils nous disent « mais regardez, c'est vous qui avez coordonné ce dossier, c'est vous qui êtes le directeur, donc c'est vous qui êtes à l'origine de cette expression « nouveau philosophe ». Et on verra qu'à chaque fois qu'Aubral et Delcourt donnent des informations, des faits, Bernard-Henri Lévy répond avec des mensonges. Et que ça suffit, la méthode est déjà là, c'est un partout. Aubral et Delcourt disent « mais pas du tout, vous dites ça dans les Nouvelles littéraires ». Ils citent le livre, ils prennent l'ouvrage et ils disent « voilà, vous dites dans « La barbarie à visage humain », page tant, etc. Ils disent « l'histoire n'existe pas, page tant, la nature n'existe pas, page tant, l'individu n'existe pas, page tant, le prolétariat n'existe pas ». Et c'est vrai. C'est dit dans l'ouvrage de Bernard-Henri Lévy. On se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» L'effet est terrible. Aubral et Delcourt sortent un petit journal qui s'appelle « La lettre de l'expansion ». Et ils disent que dans ce texte-là, des gens qui sont plutôt de droite, plutôt du côté de l'entreprise qui défend la droite, eh bien, on a trouvé que les nouveaux philosophes, ça existait, et que ça pouvait même être très utile pour lutter contre le programme commun. Ça ne suffit pas. Ils ont beau sortir les Nouvelles littéraires, ils ont beau citer le livre, ils ont beau citer la lettre de l'expansion, ça ne suffit pas, BHL ne se démonte pas et répond que ça n'a rien à voir, qu'ils sont même des flics. Ils se font traiter de flics, Aubral et Delcourt, jusqu'à ce qu'Aubral et Delcourt sortent Playboy. Un numéro de Playboy dans lequel Bernard-Henri Lévy dit « Je vis dans un espace clos extrêmement limité, un minuscule village à l'intérieur du village de Saint-Germain-des-Prés ». Mais ça ne suffit pas non plus. Alors, évidemment, pugilat sur le plateau de Bernard Pivot, et on aura assez vu de choses sur le fonctionnement BHL, sur le style BHL, sur son comportement. Plus c'est gros, plus ça passe. Et si vous êtes en face extrêmement informé, vous avez des choses à dire, ça ne suffira pas parce que le jeu n'est plus entre la vérité et l'erreur, mais entre le culot et ceux qui n'ont pas le culot. Et ce sera la même chose quand Bernard-Henri Lévy publiera d'autres ouvrages et que des grands noms, Vidal Naquet, quelques autres, etc., feront la démonstration qu'il dit des bêtises considérables en listant toutes les bêtises qui sont des erreurs du genre Botule, pour ceux qui s'en souviendraient, mais d'imaginer que Eusèbe de Césarée, c'est son nom, par exemple, alors que Césarée, c'est le lieu d'où il vient. De confondre plusieurs individus et de se tromper de siècle, etc., eh bien, au fur et à mesure de sa carrière philosophique, on aura beau montrer qu'il se trompe, qu'il est approximatif, qu'il dit des choses fausses, ça continuera tout de même. C'est-à-dire que ce qui s'est joué ce soir-là se joue depuis plus d'un quart de siècle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui se trouve vraiment dans ce livre, que beaucoup ont commenté sans l'avoir lu. Moi, j'estime qu'il faut le lire et trouver ce qui se trouve dit, parce que ce livre aura produit des effets. Il a produit des effets. D'abord, la dédicace. Le diable est dans les détails. La dédicace, c'est à Justine Juliette, ce roman d'aventure. Justine Juliette, c'est le prénom de la fille de Bernard-Henri Lévy. Pour ceux qui connaissent Sade, Justine est une héroïne de Sade, Juliette aussi. Justine, elle incarne les malheurs de la vertu et Juliette, les prospérités du vice. Il est très freudien, très lacanien, donc je pense qu'il aura pensé à ce que ça peut représenter comme charge de prénommer sa fille les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, virgule, ce roman d'aventure. C'est un livre de philosophie que Bernard-Henri Lévy présente comme un roman d'aventure. Plus tard, quand il écrira sur Daniel Pearl, presque même contre Daniel Pearl, parce qu'il se met à penser à la place de Daniel Pearl au moment où les musulmans intégristes les gorgent, ce qui déplaira puissamment à l'épouse, à la veuve de Daniel Pearl, il inventera le concept de roman-enquête. Roman-enquête, mais en un seul mot, mot-valise, roman-enquête. Et c'est très intéressant de voir qu'un philosophe se revendique du côté du roman, fait du roman. C'est-à-dire que finalement, la fiction est peut-être plus intéressante que la réalité. On congédie l'histoire. À partir du moment où on considère que c'est le roman qui fait la loi, c'est l'imagination qui fait la loi, c'est la fiction qui fait la loi, c'est l'invention qui fait la loi. On peut dire ce qu'on veut ce que disait Alexandre Dumas, on peut faire, on peut violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Je voudrais voir comment ça fonctionne, la machine BHL, la machine à penser, et je voudrais vous proposer un certain nombre d'entrées dans l'œuvre pour montrer qu'il s'agit d'une rhétorique de l'école normale supérieure où on vous apprend à bien penser dans les formes, peu importe le fond, à bien penser dans les formes. Il s'agit de faire des exposés qui soient susceptibles de séduire, de plaire. On est dans la grande sophistique de la philosophie antique. Il s'agit non pas de dire ceci plutôt que cela, peu importe la chose dite, l'important c'est de la bien dire. Et à la télévision, le règne des sophistes est considérable. Peu importe que vous disiez la vérité, il faut bien dire la vérité. Et il y a un certain nombre de méthodes, de trucs, si vous voulez. La première, c'est le goût du paradoxe et l'habileté rhétorique. Si vous prenez un revers, les gens, vous allez les surprendre. C'est-à-dire qu'il vous suffira, contre toute évidence historique, d'affirmer un certain nombre de choses du genre « Le fascisme, ce n'est pas un État renforcé, mais un État amputé ». On sait très bien que le fascisme, enfin, il suffit de lire les textes. Benito Mussolini a écrit des choses sur l'État, sur le fascisme, et on voit bien que c'est le triomphe absolu de l'État sur l'individu, le triomphe absolu de la forme étatique sur la subjectivité ou la singularité. C'est la dilution de l'individuel et du subjectif sous l'universel et le général. C'est une grande lecture hegelienne, elle est faite par Mussolini et les fascistes. C'est le triomphe de l'État. Et bien là, on dit exactement l'inverse. Le fascisme, ce n'est pas un État renforcé, mais un État amputé. Page 157. Il nous dit également que le prolétaire n'existe pas. Page 100. Et il cite Marx pour montrer que le prolétaire n'existe pas. Alors, si vous dites que le prolétaire n'existe pas, alors que Marx a construit toute sa philosophie sur le prolétariat, la lutte des classes, le triomphe du prolétariat, etc., et que vous dites que c'est Marx qui le dit, là encore, paradoxe, effet de sidération. Il explique, par exemple, ou il dit du moins, que le totalitarisme est le régime des savants et non celui des policiers. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir lu Hannah Arendt, mais on peut aussi avoir un minimum de connaissances historiques et savoir que les fascismes, quelle que soit leur formule, française, italienne, espagnole, allemande, etc., ça a été le triomphe des policiers. Il nous dit également que, citation, « le marxisme est à la lettre une pensée contre-révolutionnaire ». Évidemment, tout le monde pense que le marxisme est une pensée révolutionnaire. Non, il suffira de dire que c'est une pensée contre-révolutionnaire. Il nous dit également qu'avec ses textes marxistes et communistes, Althusser a déclenché, citation, « la plus formidable offensive anticommuniste que la gauche ait connue ». C'est aussi oublié qu'il y a eu un anticommunisme extrêmement efficace qui a envoyé les communistes dans les camps de concentration, et c'était celui du maréchal Pétain. Donc, évidemment, première façon de fonctionner, le goût du paradoxe et l'habileté rhétorique. Deuxième façon, ce que j'ai appelé, faute de mots, le fameux name-dropping, c'est-à-dire vous utilisez des noms propres et vous les balancez. Vous noyez les gens sous les noms propres. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous avez des noms philosophiques légitimement, eh bien votre propos est légitime. Vous pouvez dire n'importe quoi, pourvu que vous ayez les références légitimantes. Donc on utilise les références légitimantes. Et là, ça n'arrête pas. C'est-à-dire Platon et Parménide, Rousseau et Kant, Marx et Hegel, Nietzsche et Stirner, Proudhon et Sorel, Heidegger et Junger, Deleuze et Lyotard, Foucault et Lacan, La Boétie et Reich, Sorel et Montesquieu, Aristote et Engels, Hobbes et Freud, Condorcet et Voltaire, Schopenhauer et Bataille, Derrida et Scherer, Althusser, Guattari, L'Arbre aux jambes, etc. Ça, ce sont les philosophes seulement. C'est un livre de 200 pages. Vous faites la même chose avec les poètes et les artistes. Artaud, Rimbaud, Homère, Dante, Balzac, Proust, etc. Ça ne mange pas de pain. On n'est pas obligé d'avoir tout lu, il suffit juste de faire comme si on avait tout lu. Et vous avez des phrases du genre « Il fallait, en fait, la lente percée opérée par Vinci ou Pérégrini, Buridan, Albert de Saxe, Nicolas Dorem et tant d'autres coperniciens avant la lettre, etc. etc. » Donc évidemment, vous dites « Il doit être très intelligent, il a sûrement lu tout ça. » quelle culture immense. Et puis il y a cette idée des coperniciens avant la lettre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permettra sur le même principe à quelqu'un comme Alain Badiou de parler du pétinisme transcendantal. C'est-à-dire, avant Pétain, il y avait des pétinistes. Comme ça, c'est pas compliqué. Avant Copernic, il y a des coperniciens. Donc on est effectivement dans un grand délire intellectuel qui se moque absolument de l'histoire. Troisième façon de faire, un style faussement clair, mais vraiment lyrique. Et en lieu et place de la démonstration, on a une espèce de danse hypnotique. Je vais vous lire la première page de La Barbarie. « Je suis l'enfant naturel d'un couple diabolique, le fascisme et le stalinisme. Je suis le contemporain d'un étrange crépuscule où seuls croulent les nuages dans le fracas des armes et la plainte des suppliciés. Je ne sais d'autre révolution dont le siècle puisse s'illustrer que celle de la peste brune et du fascisme rouge. Hitler n'est pas mort à Berlin, il a gagné la guerre, vainqueur de ses vainqueurs, dans cette nuit de pierre où il précipita l'Europe. Staline n'est pas mort, à Moscou, ni au XXe congrès, il est là, parmi nous, passager clandestin d'une histoire qu'il continue de hanter et de ployer à sa démence. Et donc, effectivement, on a ça sur 200 pages. Sur Rousseau, par exemple, il nous dit, après l'avoir cité, « que je n'ose dire mon maître ». On se dit, tiens, Rousseau est son maître. Et il parle de lui en disant, « lui, l'onni, le diffamé, le supplicié, battu et masturbé à mort, j'adore le concept de masturbé à mort, et masturbé à mort par un siècle, c'est le siècle qui le masturbe en plus, qui ne toléra pas d'entendre de sa bouche les miasmes de ses lumières. » Quatrième signe distinctif, le ton de ce que Maurice Clavel appelait le journalisme transcendantal. C'est-à-dire que vous utilisez les références de la philosophie et puis les références du Monde, de l'édition du soir. Et donc, c'est le langage de l'École normale supérieure et celui de l'actualité. C'est-à-dire que, pour commenter Giscard d'Estaing, vous faites une référence à la phénoménologie de l'esprit. Pour expliquer un propos de Mitterrand, vous renvoyez à Platon. Ou vous utilisez Lacan pour saisir Georges Marchais. Et de fait, ça peut produire des effets pour certains, puisque, effectivement, là encore, on est dans la citation légitimante. Ce qui permet, au mépris de toute vérité historique, de parler, ce sont des citations de Bernard-Henri Lévy, de l'extrême droite chiracienne ou du gauchisme d'État giscardien. Donc vous voyez effectivement que tout est possible. On a également, autre signe distinctif, l'accumulation de ce que j'appellerais les propos performatifs. J'ai eu l'occasion d'en parler, de ce performatif proposé par Austin. Quand dire, c'est faire. Vous dites quelque chose et du simple fait que vous l'ayez dit, ça devient vrai. Et on est dans le règne du performatif. Internet, le tweet, etc., tout ça, c'est du performatif. J'ai dit. Il nous dit, par exemple, Bernard-Henri Lévy, « La politique n'est rien d'autre, n'a jamais été rien d'autre qu'une figure de la religion. » La politique n'est rien d'autre, n'a jamais été rien d'autre qu'une figure de la religion. Donc on peut imaginer que, quelle que soit la question politique, sur quelque lieu de la planète, à quelque endroit que ce soit, ça n'a jamais été qu'une histoire de figure de la religion. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais faites l'inverse et dites non pas « la politique n'est rien d'autre qu'une figure de la religion, mais la religion n'est jamais qu'une figure de la politique », c'est pareil, ça marche tout aussi bien, ça produit autant d'effets. Même chose par exemple avec « l'État totalitaire, c'est l'acte de décès du politique ». On pourrait se dire « tiens, j'ai plutôt l'impression que c'est le moment de l'acmé du politique, c'est le moment où le politique est à son plus fort ». Non, pas du tout. Quelques pages en amont, Bernard-Henri Lévy avait écrit que le totalitarisme était la matrice politique des formes à venir. On se dit, mais alors si c'est la matrice politique des formes à venir et qu'en même temps c'est le signe même de la mort, il va falloir choisir. Est-ce que le totalitarisme c'est la fin du politique ou est-ce que c'est l'avenir du politique? Peu importe, on est passé à autre chose. Autre signe distinctif, l'usage de concepts à majuscules. Même s'il nous dit, page 226, qu'il faut être nominaliste, j'ai eu l'occasion de vous dire ce que définissait le mot nominaliste et qu'on oppose à réaliste au Moyen-Âge, le réaliste. Et le nominaliste s'oppose parce que le nominaliste nous dit que les mots n'ont pas d'autre vérité que leur utilité. Les réalistes nous disent que les idées et les mots sont réels et que c'est la vraie réalité. Chez Bernard-Henri Lévy, les mots finissent par devenir tout ce qu'il veut qu'ils signifient. Donc on utilise à ce moment-là les gros concepts du genre socialisme, goulag, communisme, histoire, révolution, politique, bonheur, mal, réel, souverain, bien, et on utilise des majuscules à chaque fois. Quand il définit un concept, et on pourrait attendre d'un philosophe qu'il le fasse assez régulièrement, c'est sur le mode du journalisme transcendantal. C'est-à-dire, par exemple, il nous dit, c'est une citation, « Qu'est-ce que le goulag ?» point d'interrogation, « les lumières moins la tolérance ». Alors c'est un clin d'œil pour ceux qui savent que Lénine avait dit « Qu'est-ce que le communisme ?» point d'interrogation, « les soviets plus l'électricité ». C'est un clin d'œil pour celui qui sait, pour le copain de l'École normale supérieure, pour celui qui ne sait pas, c'est pas bien grave, mais en même temps c'est une belle formule. Mais est-ce que c'est juste pour autant ? Le goulag, les lumières moins la tolérance ? Il y a des idées, donc, dans ce texte-là, même si elles sont contradictoires, elles vont produire leurs effets. Alors évidemment, le style de BHL, c'est le paradoxe, la sophistique, la rhétorique, l'habileté, le lyrisme, l'hypnotisme, le performatif, la généralisation. Et tout ça produit les meilleurs effets à la télévision, bien sûr. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui croit encore un peu à la vérité, à l'histoire, aux faits, par définition, il est mort. Dans le texte, tout ça signifie l'évacuation du peuple, du prolétaire, de l'ouvrier, de la misère concrète, des victimes du capitalisme, de la classe laborieuse. Tout ça devient des gros mots ou de vilaines expressions. Il n'y a plus de prolétariat. Bernard-Henri Lévy attaque les trois gauches qui sont les gauches du moment. La gauche marxiste, elle est totalitaire par essence, nous dit-il. La gauche marxiste, à l'époque, c'est le Parti communiste, c'est Georges Marchais, donc c'est terminé. Le Parti socialiste, nous dit-il, c'est un parti marxiste, donc totalitaire, lui aussi. Le Parti socialiste de François Mitterrand, 1977, terminé aussi. Il faut dire que, quand on parle du Parti socialiste, c'est le Parti socialiste d'avant l'exercice du pouvoir. Donc c'est un parti de gauche, avant 81, et qui défend effectivement des idées de gauche. L'extrême-gauche, c'est la même chose. Il l'attaque en nous disant qu'il s'agit des désirants. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était les noms qu'il donnait à Deleuze, Guattari, etc. Et il nous dit qu'il s'agit des petits maîtres deleuziens qui font, citation, « l'apologie du pourri sur fumier de décadence ». Le seul combat qui nous reste, dit Bernard-Henri Lévy, il est éthique, il est moral. C'est combattre le marxisme qui est le seul péril en temps de guerre froide. Donc, évidemment, pouvez-vous dire de gauche quand même et préciser que vous êtes compatible avec une droite anti-marxiste. Il est bien évident que, à l'époque, la configuration étant ce qu'elle est, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République, ce sont des appels du pied intellectuel à Giscard. On ne peut pas mieux faire que de dire que si effectivement le seul vrai combat, c'est l'anti-marxisme et que les trois gauches disponibles électoralement parlant, sont des gauches totalitaires, effectivement, ça devient difficile d'imaginer quelle gauche il faudrait opposer à ces trois gauches-là. Dans la lettre de l'expansion, à laquelle Aubral et Delcourt faisaient référence, on peut lire ceci. Giscard s'est montré très intéressé par la barbarie à visage humain de Bernard-Henri Lévy, ouvrage dans lequel cet ancien proche de François Mitterrand se montre plus sévère pour lutter contre les idées de gauche. Cet ouvrage servira à lutter dans les milieux intellectuels contre les partenaires du programme commun. Finalement, au bout du compte, le 7 juillet 1978, Maurice Clavel et Bernard-Henri Lévy sont invités à déjeuner par Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. C'est le même qui nous disait qu'il fallait cesser d'être le conseiller du prince, hein, bien sûr. Reprenons les affirmations les unes après les autres, critiques du Parti communiste, critiques du Parti socialiste et critiques de l'extrême-gauche, critiques de la gauche marxiste. Il avait fait, je vous disais, la critique de la raison, du progrès, des lumières, de la technique et de la science en nous disant que tout ça, ça conduisait au goulag. Dans son ouvrage, Bernard-Henri Lévy nie le rôle moteur du prolétariat. Ça n'est plus le prolétariat qui fait l'histoire. Ça n'est plus le peuple qui fait l'histoire, du moins l'avant-garde éclairée du prolétariat. Il n'y a plus de sens de l'histoire. Il considère qu'il n'y a pas un caractère nécessaire à la Révolution. Marx disait que le capitalisme, comme il fonctionnait avec la paupérisation, augmentait la pauvreté des pauvres et le grand nombre des pauvres, et réduisait le nombre des riches et augmentait la richesse des riches. Et donc Marx lui disait qu'en fonction de cette loi évidente, à un moment donné, la révolution ne peut pas ne pas avoir lieu. Bernard-Henri Lévy dit « si, la révolution peut ne pas avoir lieu ». Il ne croit pas à la possibilité d'un monde réconcilié, et il pense que croire à tout ça, c'est souscrire au goulag. Il faut donc désespérer Billancourt, c'est pas l'expression qu'il utilise, mais vous savez que Sartre faisait silence sur un certain nombre d'exactions du Parti communiste parce qu'il considérait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. D'une certaine manière, BHL pense qu'il faut désespérer Billancourt. Il faut que Billancourt cesse d'espérer. Il faut arrêter de croire que le monde pourrait être meilleur. Le monde est ainsi et il ne pourrait guère être autrement, nous dit Bernard-Henri Lévy. Il n'y a pas d'espoir possible pour les opprimés. Il croit, Bernard-Henri Lévy, à ce qu'il appelle le mal radical, expression qu'on trouve page 82. Le mal radical est une expression qu'on trouve chez Kant, dans un ouvrage qui s'appelle « De la religion dans les limites de la simple raison ». Et le mal radical, ce n'est pas compliqué, c'est l'expression philosophique de ce que les chrétiens appellent le péché originel. Il y a un péché originel, eh bien, le mal est dans l'homme. Kant nous dit « l'homme est fait d'un bois courbe ». Et dans ce bois courbe, on ne saurait tailler quelque chose qui fût droit. Eh bien, c'est la même chose avec Bernard-Henri Lévy. Il pense que l'homme est porteur de ce mal radical. On explique l'histoire non plus en marxiste, mais en judéo-chrétien. Et je dis à dessein judéo-chrétien, en juif chrétien, un juif christianisé ou un christianisme judaïsé. C'est-à-dire qu'il choisit le pessimisme de l'ontologie judéo-chrétienne contre l'optimisme de la philosophie de l'histoire marxiste. Et on verra dans ses livres suivants, notamment le Testament de Dieu, que le judaïsme prendra de plus en plus de part. Et effectivement, si on explique le mal dans le monde par quelque chose qui est dans l'homme et qui prend la forme d'un mal radical qui n'est jamais que la formulation nouvelle du péché originel, alors à quoi bon vouloir changer les choses, vouloir changer le monde? Il faut composer avec les hommes tels qu'ils sont et il n'y a qu'une possibilité philosophique, c'est le pessimisme. Sur Solzhenitsyn et Bernard Henri Lévy a changé d'avis, comme sur beaucoup de sujets. Mais Solzhenitsyn a joué un rôle majeur, du moins la traduction française de l'archipel du Goulag en 1974. Et même si, après Kravchenko, j'ai choisi la liberté, après le laisser sur l'esprit d'orthodoxie de Jean Grenier, quiconque voulait savoir, ou Gide, le retour d'URSS, quiconque voulait savoir ce qui se passait en Union soviétique pouvait savoir depuis très très longtemps. Mais du moins, en France, il a fallu l'archipel du Goulag en 1974. Alors, Solzhenitsyn devient une espèce d'idéal pour Bernard-Henri Lévy, qui nous dit que c'est le Dante et le Shakespeare de notre époque. Il écrit « Lumineux archipel » qui prouve en lettres de sang que le marxisme est aussi une police. Et il oublie qu'effectivement, en avril 1974, dans le Quotidien de Paris, Bernard-Henri Lévy avait affirmé que l'auteur russe n'était pas un grand écrivain, et que pour ne pas sombrer dans l'anticommunisme, Bernard-Henri Lévy défendait alors l'Union soviétique. Sommes en 1974 dans le Quotidien de Paris. Le 31 mai, dans le même journal, Bernard-Henri Lévy parle de Solzhenitsyn comme d'un pitre. Et il nous dit par la suite que c'est la lecture de La cuisinière et le mangeur d'hommes d'André Glucksmann qui le convertira aux vertus de Solzhenitsyn. Première affirmation, donc, le Parti communiste, c'est le Goulag. Deuxième affirmation, le Parti socialiste, c'est aussi le marxisme, donc c'est aussi le Goulag. Après mai 68, nous dit BHL, et il n'a pas tort sur ce sujet-là, le Parti socialiste s'est inspiré des idées de mai 68. Et de fait, le féminisme, la question nucléaire, la question de la bombe atomique, la question de l'avortement, la contraception, enfin, toutes ces questions-là ont été savamment, justement, et fort bien d'ailleurs, récupérées par un François Mitterrand qui en avait fait un programme qui était un programme intéressant. Le Parti socialiste analyse les thèses du Capital, le gros livre de Marx. Il parle de lutte des classes, d'infrastructures économiques, de dialectique. Il commente Althusser et Garaudy. Il préface quelques-uns de ses grands noms, préface Gramsci, qui est le grand nom du marxisme italien. Et BHL nous dit que le Parti socialiste parle la langue des communistes. Il nous dit que le marxisme imbibe la société. Que le marxisme n'est pas que dans le marxisme. Il est dans la totalité de la société et dans toutes les consciences. Il est, nous dit-il, imbibant et imprégnant, nonobstant son déclin intellectuel, les moindres strates, les moindres pores de la société civile et politique s'en trouvent donc contaminés. Il se peut donc que la France soit, citation, déjà marxisée à un point que n'imaginent même pas les docteurs et les maîtres penseurs. C'est-à-dire, c'est un homme de gauche qui nous dit que la France est marxisée. C'est pas Powell, c'est pas Le Figaro, ce sont pas des auteurs de droite qui nous disent que la France est marxisée. Et il prend un exemple. Bernard-Henri Lévy nous dit, par exemple, que le Parti socialiste dit que Valéry Giscard d'Estaing est le représentant du grand capital. Exemple d'un vocabulaire marxiste, selon lui. Les analyses du Parti socialiste, nous dit-il, s'inspirent du marxisme. Et BHL pointe alors le rôle des médias, des universités, des appareils de parti dans la diffusion de cette idéologie qui devient indépassable. Affirmer la marxisation de la société dans la configuration de l'époque, c'est effectivement faire le jeu de la nouvelle droite qui vient d'apparaître avec Alain de Benoist et évidemment du président libéral en exercice, Valéry Giscard d'Estaing. Bernard-Henri Lévy avait été le conseiller de François Mitterrand et d'un seul coup, cet homme qui donnait l'impression d'être de gauche et qui disait toujours l'être, donne du grain à moudre à la droite. Troisième affirmation, après le PC marxiste, après le PS marxiste, l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, il nous dit, avec des expressions extrêmement violentes, qu'elle légitime la perversion et les pervers. Citation, « De l'idéologie du désir à l'apologie du pourri sur fumier de décadence, de l'économie libidinale, c'est un titre de Jean-François Lyotard, à l'innocent accueil fait à la violence brute et décodée, de la schizoanalyse, c'est une théorie développée par Deleuze et Guattari dans l'Anti-Édipe, de la schizoanalyse même à la volonté de mort sur fond de drogues fortes et de plaisirs transversaux, la conséquence n'est pas seulement bonne, elle est surtout nécessaire. » Cette façon de mettre en perspective la pensée de Deleuze et de Guattari, celle de Lyotard aussi, avec la perversion en nous disant que c'est une idéologie qui ne fait que légitimer les camés, les racistes, etc., c'est une charge extrêmement violente. Il nous dit, Bernard-Henri Lévy, l'idéologie du désir est une figure de barbarie au sens très rigoureux où je l'ai défini en commençant, deux points, partant d'une adoration sans réserve de l'ordre du monde comme il va, elle ne fait rien d'autre que le faire aller, le faire tourner plus vite et plus fort encore. Ce qui est une erreur de lecture, à l'évidence. On peut ne pas apprécier Deleuze et Guattari, on peut ne pas apprécier Lyotard, on peut ne pas apprécier René Scherrer, mais ils n'ont jamais dit qu'il fallait consentir à l'ordre du monde. Jamais. Puisque ce sont des révolutionnaires ou des gens qui invitent à un certain type de révolution, on ne peut pas consentir à l'ordre du monde et en même temps inviter à la révolution. Ça n'a pas de sens. C'est un contresens absolu que de prêter à Deleuze, Guattari, Lyotard et Scherrer ces idées-là. Deleuze est encore attaqué par Bernard Lévy qui écrit « On les connaît bien, ces chevaliers à l'allègre figure, apôtres de la dérive et chantres du multiple, anti-marxistes en diable et joyeusement iconoclastes, ils arrivent, ils sont déjà là, ces danseurs de la dernière vague, fardés et pailletés de mille feux d'un désir déchaîné, tenant d'une libération ici et maintenant, ils ont leur timonier, ces matelots de la moderne nef des fous, Saint-Gilles et Saint-Félix, pasteurs de la grande famille des auteurs de l'Anti-Édipe. » Donc, Gilles Deleuze, Félix Guattari, l'Anti-Édipe, c'est l'ouvrage que Bernard-Henri Lévy attaque à ce moment-là, en nous disant qu'ils effectuent une lecture reichienne du pouvoir, qui renvoie donc à Wilhelm Reich. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait cours sur le freudo-marxisme de Wilhelm Reich qui nous disait qu'il fallait aller voir du côté du désir pour expliquer la tyrannie. Reich pense que c'est une affaire de libido, le fascisme. C'est parce que nous vivons mal, nous n'avons pas de sexualité satisfaisante, nous dit Reich, que nous devenons méchants. Et que ceux qui sont méchants vont se donner pieds et poings liés à celui qui invitera à être méchant. Avec les capitalistes, avec les bourgeois, avec les riches, avec les communistes, avec les marxistes, avec les juifs. Enfin, on change d'ennemi, mais en même temps, il faut trouver un ennemi parce que ça donne un sens à la violence qui est en nous et qui est produite par le capital et le capitalisme. Si vous faites cette lecture-là, il est bien évident que c'est une lecture désirante, c'est la lecture du désir. Il nous dit que l'explication n'est pas libidinale, mais qu'elle renvoie, une fois encore, au mal radical. S'il y a du nazisme, s'il y a du fascisme, c'est parce qu'il y a un mal radical. Donc explication théologique contre explication matérialiste, si tant est que la libido soit une matière. Mais enfin, Bernard-Henri Lévy pense que c'est une lecture matérialiste. Il nous dit, BHL, que Hitler ne s'explique pas par la servitude volontaire. On les appelle désirants, écrit-il, justement, car partout où la gauche classique pense en termes d'appareil, de structure et d'instance, eux voient une subtile et perverse microphysique de flux, de désir, de jouissance. Ce sont les mots, effectivement, qu'utilisent Deleuze et Guattari pour leurs analyses. Donc, BHL fait une critique de la lecture de Deleuze et Guattari, qui considère qu'il n'y a pas de manipulation du dictateur à l'endroit des foules et des masses, mais un désir d'obéir, une jouissance à se soumettre de la part du peuple à l'endroit de son dictateur, qu'il n'y a donc pas un mensonge imposé par le dictateur, mais un effet des pulsions les plus secrètes du prolétariat qui se donne à celui qui propose, Bernard-Henri Lévy cite en passant les intensités serviles de Jean-François Lyotard, qui effectivement montre qu'il associe Lyotard à Deleuze, Foucault, Guattari dans ses philosophes désirants. Il nous dit, Bernard-Henri Lévy, que pour les Deleuze et Guattari, il n'y a pas de ruse du tyran, donc, mais juste un amour de l'opprimé pour son oppresseur, et qu'on ne saurait souscrire à ce genre d'analyse. La question n'est pas le désir, nous dit Bernard-Henri Lévy, mais la vérité. Il parle pour le coup de la vérité. Après nous avoir dit que l'histoire n'existait pas, eh bien, il va critiquer Deleuze et Guattari à partir de l'histoire. Ça ne le gêne pas non plus, c'est quelques pages plus tard, il a l'impression qu'on a oublié, mais il nous fait l'éloge de l'histoire la plus concrète en nous disant que si on veut comprendre, par exemple, Hitler au pouvoir, eh bien, on ne comprendra pas ce phénomène par la libido. Par le capitalisme qui aurait produit des cuirasses chez des individus dont la sexualité n'aurait pas été épanouie. Bernard Lévy dit c'est pas ça l'explication. Et il renvoie au chômage, et il a raison en ce sens, au chômage, à l'inflation, à la misère qui fait le lit du nazisme, et il nous dit que les Deleuziens sont passés à côté de l'histoire. C'est assez singulier d'utiliser l'histoire pour critiquer ceux qui passeraient à côté de l'histoire alors qu'on a dit que l'histoire était morte. Mais là encore, peu importe. BHL reprend Lacan au vol pour utiliser quelques-uns de ses concepts en nous disant qu'on n'expliquera vraiment le pouvoir qu'à partir de Lacan. C'est Lacan seul qui pourra nous expliquer comment fonctionne le pouvoir. Donc pas les marxistes, bien sûr, pas non plus les désirants, bien sûr, mais les lacaniens, ou du moins ce que dit Lacan. Et il utilise le concept lacanien de fantasme. Le fantasme, c'est comme le pouvoir, il est introuvable, mais il est partout puissant. Bernard-Henri Lévy nous dit du fantasme, citation, « Il est un irréel plus fort que le réel qui, au réel, impose sa loi. » Et donc, on utilise toutes les notions lacaniennes pour expliquer le pouvoir, c'est-à-dire le fantasme, la forclusion, l'imaginaire, le maître, le pouvoir, le symbolique, le signifiant, le réel, le manque, le désir, la parole, les nœuds borroméens, etc., etc., etc. Citation. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, qu'on peut voir dans le freudisme un recours politique, un moyen d'échapper au semblant de la pensée de gauche. C'est-à-dire qu'il faut critiquer la gauche à partir de Freud, et à partir d'une lecture de Freud faite par Lacan. Donc Bernard-Henri Lévy s'inscrit dans un lignage qui est celui d'Althusser, il nous le dit, mais aussi de Lacan. Donc on est bien dans le logiciel des années 70, dans un logiciel structuraliste, là encore, qui nous donne l'impression que l'histoire n'existe pas, mais qu'il n'y aurait effectivement que des invisibles qui seraient le moteur de l'histoire. Le mal radical une fois, le fantasme par ailleurs, et le fantasme qui entretiendrait des relations avec le mal radical. Dès lors, pas besoin de faire une lecture historique de l'histoire. Il suffit de faire une lecture fantasmatique de l'histoire, de faire une lecture qui sera transcendantale, c'est-à-dire au-delà de toute raison, et purement performative. Il suffira de dire. BHL écrit... deux points, ouvrez les guillemets. Tordre le cou à l'optimisme et à sa raison hilare, se cuirasser de pessimisme et s'étourdir de désespoir. Voilà notre rude vérité. Longtemps mûri et réchauffé, échauffé au soleil. Je mis longtemps mûri avec un petit signe parce que longtemps mûri, à l'époque, il a 28 ans. Hein, donc longtemps mûri, on se dit, ça peut être plus longtemps mûri. Mais enfin bon. Voilà notre rude vérité. Longtemps mûri et chauffé au soleil noir de nos piétés. Deux points, le monde est un désastre dont l'homme est le sommet, la politique est un simulacre et le souverain bien est inaccessible. Normalement, on doit se flinguer après ça. Il nous dit qu'il faut pratiquer, citation, une politique provisoire. C'est là qu'arrive la positivité. Hein. Une politique provisoire. Là encore, clin d'œil de Normalien, la morale par provision de Descartes, après qu'il eût douté de tout. Donc il faut pratiquer une morale provisoire d'un minimalisme politique dont nous sommes quelques-uns à penser aujourd'hui, qu'ils ne peuvent être que précaires, incertains, conjoncturels, pour tout dire, affaire de sentiment. Ça veut dire que pour le coup, c'est le sentiment qui fait la loi. Sous-entendu, si toi tu me plais, c'est bon. Si tu ne me plais pas, eh bien c'est bon aussi, ton affaire est faite. Le sentiment fait la loi. On a conjuré, congédié la raison, le logos, la vérité, etc. Et c'est le sentiment qui fait la loi. Citation, il ne reste que l'éthique et le devoir moral. Page 218. On se dit très bien, qu'en est-il de ce devoir moral ? Citation, protester contre le marxisme. Voilà à quoi débouche, sur quoi du moins débouche la barbarie à visage humain, critique de toutes les gauches, prétendument au nom de la gauche, pour nous dire qu'il nous faut lutter contre le marxisme qui, vous l'avez vu, est partout, au Parti socialiste, chez les marxistes, et c'est le moins, à l'extrême gauche, etc. Donc qu'est-ce qui nous reste vraiment ? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin ? Il faut choisir, nous dit Bernard-Henri Lévy, des alliances ponctuellement, de façon pragmatique, voire cynique. Et ceci nous est présenté comme une morale. Et voici la phrase qui est finalement le cœur même, le cœur nucléaire de cet ouvrage et de la pensée de Bernard-Henri Lévy. Oui, la gauche socialiste, et j'enlève mes lunettes, oui, la gauche socialiste, dans sa version libérale, peut figurer le lieu d'un moindre mal en un monde que transit le mal. Donc on est là, dans cette logique extrêmement simple. Toutes les gauches qui ne sont pas libérales sont marxistes et conduisent au goulag. Il n'y a de gauche que la gauche libérale. Bien vite, cette gauche libérale, elle aura les pleins pouvoirs en 1983, non pas en 81. En 1981, il arrive au pouvoir une gauche de gauche. En 83, cette gauche de gauche renonce à être de gauche, elle consent à être une gauche libérale, et du Mitterrand de Mauroy de l'époque, ou du père de Martine Aubry, pas oublié non plus que la conversion se fait avec Jacques Delors à cette époque-là, de cette gauche libérale de 1983 jusqu'à la gauche libérale qui est aujourd'hui au pouvoir, on a vu comment de 83 à aujourd'hui, cette gauche libérale a produit ses effets. Personne ne pourra dire que cette gauche libérale n'est pour rien dans l'existence du Front National à l'étiage qui est le sien aujourd'hui. Je vous remercie. Le livre de Bernard-Henri Lévy, donc, La barbarie à visage humain, chez Grasset, qu'on trouve aujourd'hui en livre de poche. André Glucksmann, Les maîtres penseurs, Grasset. Philippe Cohen, qui est récemment décédé, trop jeune. BHL, c'est le titre du livre, une biographie chez Fayard. De François Aubral et Xavier Delcourt, Contre la nouvelle philosophie, paru chez Gallimard, sur Deleuze, pour Deleuze ou avec Deleuze. Et donc on a vu comment Deleuze fonctionnait un peu. Et je renvoie à l'abécédaire de Gilles Deleuze. Ça, ce sont les fameux DVD dont je vous ai parlé aux éditions Montparnasse. 3 DVD, 8 heures d'émission, gros plan, quasiment un plan fixe sur Gilles Deleuze, qui à un moment donné dit ah mais on n'avait pas dit ça, c'est pas la question qu'on avait dit qui était. Donc on voit qu'effectivement Claire Parnet lui avait posé les questions avant, mais il avait probablement beaucoup travaillé ses réponses et c'est très intéressant, très intelligent, très brillant comme tout Deleuze, bien sûr. Gilles Deleuze et Félix Guattari, même si on n'est pas d'accord, hein. Qu'est-ce que la philosophie point d'interrogation, aux éditions de Minuit. Guattari était très très dépressif et Deleuze très très amical, donc c'est un livre qui est écrit par Deleuze et signé par les deux, mais Guattari n'y est pas pour grand-chose. C'est ce que dit François Dos dans la biographie de Deleuze et Guattari, c'est un beau geste d'amitié de la part de Deleuze. Un livre intéressant de Philippe Meng, Deleuze et la question de la démocratie aux éditions L'Harmattan, parce que Deleuze n'était pas un démocrate et que presque tous les philosophes de ce qu'on appelle la French Theory n'étaient pas des démocrates, fascinés par les dictatures, fascinés par une extrême gauche violente, brutale, fascinés même par des terroristes ou des terrorismes. Enfin, on voit bien que la démocratie n'était pas défendue par ces philosophes-là et que ceux qui défendaient la démocratie, je songe à Raymond Aron par exemple à l'époque ou à François Furet un petit peu plus tard, sont des gens qui se sont fait mal voir par des individus qui n'aimaient pas le débat, la démocratie, la tolérance. Et puis ce beau petit livre de Claude Jaglet aux Presses universitaires de France, Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jaunes. Et donc c'est un petit livre qui aborde Deleuze pas par ce qu'on connaît habituellement, savoir l'anti-Édipe, mille plateaux, les grands concepts, déterritorialisation, corps sans organes, flux, etc., mais par ses interventions orales. On verra que Deleuze a été un professeur avec une façon de parler, avec un style, avec une façon d'être et de faire, et que peut-être les œuvres les plus grandes de Deleuze, que j'ai tendance à croire, sont dans l'abécédaire et sont dans ses cours, dans cette façon de prendre le texte, de lui faire rendre gorge et d'obtenir du texte que chacun pouvait faire ensuite. Ce texte est un joli portrait de la voix de Gilles Deleuze et des effets du corps de Gilles Deleuze dans le cours. Pierre Boutang, j'ai parlé de lui en disant que je l'avais vu à la télévision chez Pivot à une époque, et il avait fait paraître ce livre-là chez Grasset. Il a été réédité aux éditions du Cerf, Apocalypse du désir. Et puis, parce qu'on peut être de gauche et pas de gauche libérale et en même temps croire aux vertus de l'échange, du débat, de l'écoute, etc., cette référence à Jürgen Habermas, qui est un philosophe toujours vivant en Allemagne, c'est la grande référence en Allemagne, Morale et communication, c'est l'un des livres d'Habermas aux éditions du Cerf. Et Habermas est à l'origine du concept il appelle ça l'agir communicationnel. Et l'agir communicationnel, c'est une invitation justement au débat. L'exercice de la démocratie, c'est l'exercice du débat. On écoute, on ne méprise pas, on ne refuse pas le débat, on examine les vrais propos et pas les propos fantasmés du personnage qu'on a en face de soi, et on essaie d'obtenir des consensus. Et c'est l'un des héritiers de l'école de Francfort. C'est parfois très allemand, et parfois c'est une montagne qui accouche d'une souris, mais c'est une belle souris revigorante. Je me souviens d'avoir lu un petit texte de Victor Cousin, qui est l'un des introducteurs de Hegel en France. Et Hegel, c'est compliqué, c'est dur à traduire, sans faire des néologismes. Et un jour, il explique ce qu'est vraiment la philosophie allemande et ce qu'est la pensée de Hegel en disant « Vous prenez un très grand plat, vous savez, comme dans les années 80-90, il y avait des grands plats en inox chez les traiteurs. Et puis vous mettez plein de légumes, plein de choses, plein de trucs. Et puis dessus, une toute petite tranche de viande. » Et bien, il dit « C'est ça, la philosophie allemande. Vous avez tout ça, mais finalement, il faut trouver la petite tranche de viande. » Il y a même parfois certains livres dans lesquels il n'y a pas de tranche de viande. Et on le sait juste après. Voilà pour la biblio.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, les réponses de Michel Onfray aux questions du public du Centre dramatique national de Normandie.